Chers amis, nous nous retrouvons une fois de plus cette année pour réfléchir ensemble en ces trois jours de la Semaine Sainte, lundi, mardi et mercredi saint. Et cette année, nous allons réfléchir sur la spiritualité du Sacré-Cœur. Cette spiritualité qui s'est développée peu à peu au cours de l'Église et qui a mis en valeur cette réalité fondamentale que Jésus ressuscité, présent dans notre vie, il a un cœur humain, un vrai cœur humain comme le nôtre, capable de se réjouir de notre foi, de notre amour, capable aussi de souffrir. Oh, bien sûr, Jésus est venu sur terre, il a conservé au fond de lui-même sa joie divine, il était vrai Dieu et vrai homme, il a conservé sa joie éternelle de Fils de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien ces crucifix où l'artiste a osé représenter un sourire sur les lèvres de Jésus crucifié pour nous rappeler que même sur la croix, Jésus, il était infiniment heureux d'être le Fils bien-aimé du Père. Quand il dit « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il sait très bien que le Père est toujours avec lui, infiniment aimant. Mais le Sacré-Cœur, c'est celui qui est capable d'être heureux, d'être un petit peu plus heureux à cause de nous et d'être malheureux à cause de nous. Nous allons voir ça. Ce grand mystère que nous sommes capables de donner du plaisir à Dieu. Nous sommes capables de le faire souffrir, mais nous sommes capables aussi de lui faire plaisir, il a du plaisir avec nous, c'est ce que nous allons voir. Et quand on comprend cela, ça change la vie, ça change notamment les difficultés que nous avons dans notre vie. Parce que si Jésus nous console, nous pouvons aussi consoler le cœur de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons voir successivement cette spiritualité du Sacré-Cœur. Nous allons passer un petit moment à voir pourquoi cette dévotion n'a pas eu le succès depuis quelques années qu'elle devrait avoir, cette dévotion. Nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi les chrétiens n'osent plus penser que Jésus est toujours avec eux comme un amoureux qui réclame notre amour. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit à Marguerite Marie lorsqu'il est apparu, lui est apparu dans son couvent de Paray-le-Monial au XVIIe siècle. Nous verrons ensuite que Jésus a suscité sur le sol de France une Gabrielle Bossis. Il s'est mis à lui parler pendant 14 ans à cette comédienne magnifique pour lui rappeler justement à quel point il était un amoureux réclamant notre amour. Nous verrons enfin que cette spiritualité est spécialement importante lorsque nous souffrons. Et ce n'est pas seulement les années de pandémie que nous souffrons, c'est toute notre vie que d'une façon ou d'une autre, nous avons des difficultés parfois écrasantes. Alors nous allons voir combien cette spiritualité peut nous aider à vivre ces difficultés, jusqu'au point que nous pouvons danser notre vie, comme le dit le psaume 30, « Ton amour me fait danser de joie, mais tu vois ma misère et tu sais ma détresse. » Alors, donc sa spiritualité consiste à penser que Jésus, vraiment, il a du plaisir avec nous. Alors, c'est une spiritualité qu'on trouve dans ce qu'on appelle la dévotion moderne, qui s'est beaucoup développée au XIVe siècle, et ça a donné l'imitation de Jésus-Christ, où on dialogue avec Jésus, et Jésus nous rappelle un certain nombre de choses pour nous consoler. Ça donne la spiritualité des jésuites, qui s'appelle la compagnie de Jésus. On peut vivre notre vie en compagnon de Jésus, en amitié avec Jésus. Ça donne évidemment tout ce que Jésus a fait comprendre à Paray-le-Monial à cette Marguerite Marie, visitandine. Et puis, ça donne ces chants qu'on chantait en... il n'y a pas si longtemps que ça, Henri Collat, par exemple, était un chanteur assez apprécié. Il compose en 1946 un chant qui a fait beaucoup chanter les jeunes à ce moment-là, après la guerre, après la dernière guerre. Dans le silence du matin, ô Jésus, descends dans mon âme, sois mon compagnon de chemin, mon cœur ardemment te réclame. N'es-tu donc pas le grand ami dont le souvenir me réveille, tandis que je dors à demi, que mon esprit encore sommeille. Si la fatigue me surprend, par pitié pour ma main qui tremble, viens à moi, je suis ton enfant, nous travaillerons mieux ensemble. Jusqu'au soir, reste près de moi, puis quand du repos viendra l'heure, je m'endormirai près de toi, et tu garderas ma demeure. Nous t'offrons notre volonté, notre cœur, notre intelligence, pour obtenir de mieux t'aimer et pour un mieux te mieux comprendre. Les travaux de notre journée et les peines et les douleurs que ta main nous aura données. Voilà. Alors cette spiritualité magnifique, ce cœur à cœur avec Jésus, eh bien, nous allons voir pourquoi depuis les années 70, ça a été un petit peu battu en brèche. Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons tellement insisté dans la prédication chrétienne sur l'importance de notre vie en Église. Chrétiens isolés, chrétiens en danger, nous sommes faits pour vivre en Église, nous devons prier tous ensemble, que nous avons oublié que le chrétien, c'est aussi d'abord quelqu'un qui prie un cœur, qui a un cœur à cœur avec Jésus. Nous l'oublions trop souvent en cette période de confinement. C'est Jésus lui-même qui nous dit, au début du carême, si tu veux prier, confine-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ne sont plus capables de prier tout seuls. Il leur faut toujours prier en voyant d'autres chanter à la guitare ou sans guitare. Non, je le dis aux couples, même les couples doivent de temps en temps prier chacun de leur côté, parce que l'homme ne prie pas comme la femme réciproquement. C'est très bien de chanter en chorale, mais quand le Seigneur regarde la chorale, il aime bien que chacun le prie personnellement. La prière est toujours une rencontre personnelle entre mon moi et le toi divin. C'est un rendez-vous d'amour personnel. On a peut-être un peu trop oublié ça à force d'insister sur la vie en Église. Et puis surtout, il y a encore aujourd'hui une influence néfaste d'un certain courant. On verra tout à l'heure d'où il vient. Disant que l'essentiel, c'est la charité fraternelle. Oh, la charité fraternelle, c'est très important. L'Église nous rappelle au début du carême l'importance du partage et du jeûne qui contribue à partager avec les autres. Moi-même, j'ai écrit un certain nombre de livres. Le premier livre que j'ai écrit, c'est « La charité fraternelle chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus », ma thèse de théologie. Donc, même pour une carmélite, la charité fraternelle, c'est très important, mais ce n'est pas le premier commandement. Même si Jésus a dit le jeudi saint, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et alors, on oublie que le premier commandement, c'est « Aimer Dieu de tout son cœur ». Malheureusement, Luther a lancé cette énorme erreur que la véritable agapé, que la véritable charité fraternelle, c'était quand on se penchait vers le plus pauvre. Dieu nous aime d'un amour de miséricorde, et bien nous aussi nous devons aimer les autres d'un amour de miséricorde, nous pencher vers le misérable. Oh, j'espère que si vous êtes marié, vous ne considérez pas que aimer votre femme, c'est de se pencher sur une pauvre fille. Non, l'amour est un échange justement. Nous allons voir que Dieu nous aime d'un véritable amour en recevant quelque chose de nous. C'est ce que nous allons voir pendant ces 3 jours. Dieu est un amoureux. Il aime donner, mais il aime aussi recevoir. En quelque sorte, l'amour de Dieu n'est pas totalement désintéressé, mes frères. Oh, j'ai dit quelque chose d'énorme. Si, Dieu nous aime gratuitement, mais il aime beaucoup recevoir quelque chose de nous. Et nous l'oublions trop souvent. La preuve, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui viennent à l'Église pour recevoir l'Eucharistie, pour recevoir des grâces qui vont leur permettre d'aimer leur prochain, justement, en sortant de la messe. Mais ils oublient qu'à la messe, nous offrons un sacrifice pour plaire à Dieu. Nous offrons tous les sacrifices que nous avons faits pendant la semaine, tous les actes d'amour que nous lui avons adressés, tous les sourires que nous lui avons donnés. Ah, c'est mutiler la messe que de la réduire à la communion. J'ai été frappé un jour par cette réflexion d'une petite jeune qui se confessait à Paray-le-Monial et qui me disait « Mon père, je m'ennuie à la messe parce que j'ai hâte d'arriver au moment où je vais communier. » Oh, je lui ai répondu « Vous êtes bien de votre époque. Vous venez à la messe pour communier et vous oubliez l'offrande. » Par lui, avec lui et en lui, par Jésus, nous offrons au Père le corps et le sang de Jésus en rémission de nos péchés. Nous verrons cela ces jours-ci. On offre quelque chose, on fait plaisir à Dieu en lui offrant nos sacrifices, nos actes d'amour. Voilà. Alors, si vous oubliez cela, évidemment, vous oubliez la dévotion au Sacré-Cœur. Alors, quelqu'un qui nous a rappelé ça récemment, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qu'on est en train de redécouvrir, Gabrielle Bossis. C'est une fille originaire de Nantes, qui a eu une jeunesse très généreuse. Elle s'est demandé à un certain moment si elle ne devait pas devenir franciscaine de Marie, missionnaire. Non, elle est restée dans le monde en vivant une vie d'intimité avec Jésus. Elle a même décidé assez vite de ne pas dormir dans un lit. Elle couchait sur le parquet de sa maison, enveloppée dans des couvertures, pour vivre davantage en intimité avec Jésus. Elle s'occupait beaucoup des enfants, leur faisait le catéchisme, avait un grand amour des missions, faisait beaucoup de choses, des ornements, des broderies pour les missionnaires. Et à un certain moment, alors qu'elle a 49 ans, son curé de... Elle habitait à Nantes, mais aussi dans un manoir à 160 km de Nantes qu'elle avait hérité. Et le curé de Fresnes-sur-Loire lui dit « Vous devriez composer une comédie, parce que dans nos patronages, les comédies ne sont pas extraordinaires. » Le curé savait qu'elle avait un neveu qui faisait du théâtre et du cinéma, et donc elle connaissait un peu ces affaires-là. Pour faire plaisir à son curé, elle compose une comédie en 3 actes bien bâtie qu'elle joue et qu'elle joue avec un tel succès qu'elle va être invitée à jouer et à faire jouer les jeunes un peu partout en France et même à l'étranger. Elle était un véritable clown qui faisait énormément rire. Et alors, à un certain moment, alors qu'elle prend le paquebot pour aller au Canada, à la demande des Canadiens eux-mêmes, pour apprendre aux jeunes là-bas à danser et à jouer comme elle, voici que Jésus se met à lui parler en direct. Non pas en voix off, mais une voix qui s'impose dans le fond de son cœur. Et Jésus demande d'écrire tout cela pour que ce soit publié plus tard, et Jésus donne lui-même le titre qu'elle devra donner à ses locutions qu'il lui adresse, lui et moi, lui et moi. Pour justement nous montrer que nous avons le droit de penser que nous sommes en relation personnelle avec Jésus. C'est donc pendant 14 ans, de 1936 à 1950, l'année de sa mort, Jésus va lui parler, elle va écrire tout ça sur des carnets. Ces carnets vont être publiés et avoir un succès fou dans les années 50-70. Et puis pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, on a moins lu ces petits bouquins, mais qui sont délicieux quand on les découvre. Je connais plus d'une personne qui redécouvre en cela, redécouvre justement la spiritualité du Sacré-Cœur. Jésus manifeste qu'il est véritablement un amoureux qui réclame notre amour et qui nous invite à un voyage de noces. Voilà, c'est la grande idée que nous allons développer ces jours-ci. Nous sommes tous invités, que nous soyons célibataires, mariés, divorcés, enfin, quelle que soit notre condition de vie, ce n'est pas réservé aux religieux. Et justement, Jésus a voulu choisir une fille extrêmement engagée à faire rire les gens. Elle composait ses comédies, les décors, la mise en scène. Elle voyageait, donc une vie très active. Mais Jésus l'a choisi pour montrer justement que cette intimité avec lui est tout à fait compatible avec une vie dans le monde, une vie de contact et une vie où on passe son temps à faire rire les gens. Ce n'était pas une introvertie, c'était plutôt une extravertie. D'ailleurs, Jésus, nous allons voir, lui reproche de temps en temps de ne pas savoir se recueillir. Voilà. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait de temps en temps, le plus souvent possible, se recueillir en pensant qu'il n'est pas tout seul. Et l'un des grands péchés des chrétiens, c'est de penser qu'ils sont tout seuls. Je pense à tous les célibataires, par exemple, qui rentrent chez eux en disant « Oh, je suis seul chez moi ». C'est un gros péché par omission. Quand ils mettent la clé dans la serrure de l'appartement, ils doivent penser que chez eux, il y a Jésus qui est là, qui les attend et qui les invite à tout faire à deux. Voilà. Nous sommes faits pour vivre avec Jésus. C'est continuel. Et alors, qu'est-ce que Jésus nous demande? Eh bien, il nous demande d'abord de croire. C'est ce que Jésus dit à Gabriel Bossis. Il nous demande de croire en son amour. C'est la première chose. Ça lui fait de la peine quand nous ne croyons pas qu'il nous aime infiniment. Est-ce que vous avez déjà réalisé, mes frères, que nous existons à cause d'une parole d'amour que le Seigneur ne cesse de prononcer au cœur de nous-mêmes? La Bible dit que Dieu appelle chacune des étoiles par son nom. Je ne sais pas comment il fait, il y en a des milliards. Bien de la même façon, Jésus prononce au cœur de nous-mêmes notre surnom d'éternité. Nous sommes créés par une parole d'amour. Et cette parole, elle nous est donnée pour qu'on lui réponde. Ah, beaucoup de gens, parfois même des prêtres, ne découvrent cela qu'après un certain nombre d'années de sacerdoce. Nous sommes créés pour... La prière, c'est la réponse normale à cette parole d'amour qui nous crée. Dieu nous parle pour que nous lui répondions. Dieu nous crée pour que nous entrions en prière avec lui. Le problème, justement, c'est que nous considérons que la prière est un moyen de faire le reste, que la communion, c'est un moyen de faire le reste. Quelle erreur! La chose essentielle de notre vie, c'est l'amour de Dieu. C'est de répondre à ce Dieu qui nous aime et qui nous aime tout le temps en nous parlant, en causant avec nous, pour que nous lui répondions. Donc voilà, nous avons une raison énorme de croire que Dieu nous aime, puisqu'il nous aime par une parole d'amour qu'il ne cesse de prononcer en nous, que nous n'entendons pas. Mais nous le savons par la Bible. Il nous crée en causant avec nous. Et puis, souviens-toi, c'est l'un des grands commandements de la Bible. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes responsables de notre mémoire. Quand j'étais professeur, je faisais remarquer à mes élèves que se souvenir, se rappeler, c'est un verbe pronominal. Et chaque fois que vous employez en français un verbe pronominal, vous désignez un acte libre. Je m'agenouille, je m'intéresse, je me force, je me souviens. On peut s'obliger à se rappeler toutes les bonnes choses de notre vie plutôt que de ressasser toujours nos inquiétudes et nos frustrations. On peut commander à sa mémoire. C'est très important. Vous avez des personnes qui ne cessent de ressasser les difficultés de leur vie. Bon, il y a des difficultés qui s'imposent à nous. j'ai écrit récemment un livre, N'aie pas peur de... pour aider les gens à vivre leurs grosses difficultés. D'accord, il y a des difficultés qu'on ne peut pas oublier. Mais on peut quand même s'obliger à penser aux raisons que nous avons de rester en paix au milieu de tout cela. Donc, n'ayez pas peur de vous souvenir souvent de tout ce que vous avez reçu dans votre vie. Si vous avez eu la chance d'avoir des parents, des frères et sœurs qui vous aiment bien, un parrain, une marraine, des professeurs. Ouais, tout le monde n'a pas ce bonheur-là, je le sais. Je pense aux enfants qui ont été adoptés, par exemple, et qui ont parfois bien du mal à ne pas vivre avec leurs parents biologiques. Mais j'aime bien ce message qu'a imaginé une femme à tous les enfants adoptés. Il était une fois deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, l'une dont tu ne te souviens pas, l'autre que tu appelles maman. Deux vies différentes, dans l'accomplissement d'une seule, la tienne. L'une fut ta bonne étoile, l'autre est ton soleil. La première te donna la vie, la seconde t'apprit comment la vivre. La première créa en toi le besoin d'amour, la seconde fut là pour le combler. L'une te donna tes racines, l'autre t'offrit son nom. La première te transmit ses dons, la seconde te proposa un but. L'une fit naître en toi l'émotion, l'autre calma tes angoisses. L'une reçut ton premier sourire, l'autre sécha tes larmes. L'une t'offrit en adoption, c'est tout ce qu'elle pouvait faire pour toi. L'autre pria pour avoir un enfant, et Dieu l'amena vers toi. Et maintenant, quand en pleurant, tu me poses éternelle question, de qui suis-je le fruit ? Tout simplement de deux formes différentes d'amour. Voilà, un petit poème qui rappelle aux enfants adoptés qu'ils peuvent quand même réussir leur vie, même si je le reconnais. Il y a une souffrance qui souvent se manifeste à un certain moment. Ou bien, on demandait à une maman, vous avez beaucoup d'enfants, quel est votre préféré ? Celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse. Celui qui est loin jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse. Celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'il soit libéré. Celui qui est éprouvé, jusqu'à ce qu'il soit consolé. Bon. Alors, c'est très important de vous souvenir que Dieu, que Jésus, n'a pas un amour de masse. Quand un jour de fête, il y a beaucoup de monde dans l'église, Jésus ne dit pas « Oh, il y a beaucoup de monde aujourd'hui ». Non, non, Jésus ne dit jamais ça. Il dit à Pierre, Élisabeth, Jeanne Françoise, Jésus regarde chacun. Alors évidemment, le prêtre dit peut-être au début, « Mes frères, nous sommes ici tous ensemble pour fêter la Pentecôte ou je ne sais quelle fête religieuse. » C'est vrai que nous sommes tous ensemble, mais Jésus ne regarde pas un ensemble. Il a la capacité de regarder chacun. Et ça, le cœur de Jésus, il est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. La même chose pour la Sainte Vierge. Vous connaissez peut-être ce qu'a fait le curé d'Ars au début de son arrivée dans la paroisse. Pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Il a fait faire un cœur en métal doré et il a invité les paroissiens à mettre dans ce cœur de Marie leur nom pour leur montrer que le cœur de Marie connaissait personnellement les prénoms, les noms de chacun des paroissiens. Le cœur de Jésus, il est grand comme ça. Il nous aime personnellement en même temps. Vous êtes capable, évidemment, de penser en même temps à chacun de vos enfants, mais Dieu, qui vit en dehors du temps, il est capable de penser en même temps à chacun d'entre nous. C'est fondamental. Quand vous assistez à un office perdu dans la masse perdu par exemple sur la place Saint-Pierre à Rome, que sais-je, ou dans la basilique de Lourdes, vous devez penser que Jésus vous regarde personnellement et qu'il a un plaisir personnel à vous regarder et à recevoir votre prière. C'est ce que Jésus va enseigner à Gabriel Baucis dans ses locutions qu'il lui adresse de 1936 à 1950 et qui ont été publiées en 7 petits volumes de 1950 à 1957 sous le titre « Lui et moi ». Et Jésus invite cette comédienne, cette Gabrielle, à se retirer souvent dans le fond de son cœur pour y rencontrer son Dieu, le cœur de son Dieu. Puisque je suis l'hôte de ton cœur, viens là souvent me rendre visite. Ne fais plus attention au monde. Cloître-toi derrière les grilles de ton intérieur. Jouis de Dieu en toi. Oh mes frères, c'est fondamental, c'est notre premier devoir. Et Jésus ose dire à Gabriel Baucis, il y aura une plaine spéciale au purgatoire pour les hommes qui n'auront pas cherché cette jouissance. Est-ce que vous vous accusez parfois à confesse de ne pas suffisamment jouir de Dieu? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ce verset du psaume 33, on l'a chanté pendant des siècles, au moment de la communion. On va déguster Dieu. On va se réjouir d'être aimé par Dieu. Dieu vient au cœur de notre être pour nous rappeler qu'il nous aime. C'est un cœur à cœur. C'est même un corps à corps, la communion. Dans le fond de l'âme, il faut descendre, retrouver son Dieu. Vis bien dans ton intérieur. Si tu savais toujours trouver chez elle une amie très chère, tu n'hésiterais pas à aller souvent la voir. Eh bien, tu sais que je suis constamment en toi. Tu n'as même pas besoin de me dire « Es-tu là ?» Viens donc souvent, pleine d'amour, te jeter à mes pieds et moi je te prendrai dans mes bras. C'est ce que vous faites lorsque vous allez communier. Jésus vous prend dans ses bras. Vous demeurez en lui. Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. Seigneur, voulez-vous que nous appelions mon cœur le petit salon de Dieu? Oh non, dit répond Jésus, non. Le salon, c'est tout le monde passe dans un salon. Non, il faut plutôt que tu parles de la chambre des secrets, notre chez-nous, inaccessible aux troubles. Vous savez, ce dialogue que vous avez avec Jésus, c'est la chose la plus importante de votre vie. C'est votre vie cachée. C'est ce qu'on ne dira jamais le jour de votre enterrement. On racontera ce que vous avez fait. Moi, on racontera que j'ai fait des prédications, etc., que j'ai eu un ministère. Mais ma vie cachée avec Jésus, c'est mon secret. On a un secret avec Jésus. C'est très important, cette vie cachée. Bien sûr qu'il faut évangéliser de temps en temps. Il faut montrer aux autres la joie que nous avons de croire en Jésus. Mais non, l'essentiel de notre vie, il est caché. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu, dit saint Paul. C'est là, dans le fond de notre cœur, que nous pouvons échanger nos secrets d'amour. Alors, Jésus reprend Gabriel pour l'inviter à une vie d'intériorité plus grande, d'intimité plus grande avec lui. En tram, il y avait un tram à Nantes. En tram, je disais machinalement des prières en regardant promeneurs et magasins par la fenêtre. Doucement, Jésus m'a dit, si j'étais simplement un homme, je te demanderais, est-ce que tu te moques de moi? Notez qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont tellement mal élevés que lorsque vous allez chez eux, tout en causant avec vous, ils regardent la télévision. Ils sont incapables de se détacher de la télévision. Ils ont une addiction à la télévision. Et Jésus reproche à Gabriel, à ce moment-là, il n'y avait pas tout cela, d'être trop distrait. Vous avez par exemple des gens qui viennent de communier. Au lieu de penser à Jésus qui est dans leur cœur, ils regardent les autres communier. Mais c'est pas poli, quoi. Jésus est là et vous regardez ailleurs. Oh, ce n'est pas un péché, mais comme c'est dommage. Je regardais entrer une personne. Ne pourrais-tu pas me sacrifier tes yeux? Fais-les me regarder. Je suis toujours près de toi. Pourquoi tu ne te recueilles pas davantage pour me retrouver au cœur de toi-même? Je ne sais pas si vous avez entendu parler des semaines de prière que prêchait le père Caffarel à Trossure. Et il faisait réciter aux retraitants une litanie qu'il avait trouvée chez un poète hindou, mais en lui donnant un autre sens, évidemment. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Une façon de se recueillir, d'avoir cette garde du cœur qui nous permet de vivre continuellement avec Jésus. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi vivre avec toi dans le fond de mon cœur. Tu me crées nuit et jour dans le fond de mon cœur. Je crois en ton amour dans le fond de mon cœur. Je crois que tu m'attends dans le fond de mon cœur. Merci de m'accueillir dans le fond de mon cœur. Je voudrais mieux t'aimer, te rencontrer dans le fond de mon cœur. Je voudrais rester là dans le fond de mon cœur. Je t'adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. C'est fondamental dans la vie chrétienne, ce cœur à cœur, voyez. On insiste tellement maintenant sur le « nous ». Nous sommes, le prêtre dit les prières à la première personne du pluriel parce qu'il représente toute la communauté. Mais ça ne va pas supprimer le cœur à cœur. Un jour, un diacre me disait « Pourquoi le prieur ne dit pas toujours les prières tout haut ? Pourquoi tu puisses prier tout bas ?» Il faut réapprendre aux chrétiens à prier tout bas. On leur a dit, prie en église, c'est bien. Il faut les deux. Il faut les deux. Il y a une complémentarité entre la prière communautaire et la prière personnelle. Retrouve-moi régulièrement au cours de tes journées, au commencement de tes actions, mets-toi en ma présence. Je pense à quelqu'un qui a une grosse responsabilité dans l'église et qui, ayant découvert Gabriel Bossis, reprend l'habitude ou prend l'habitude de dire « Jésus, tu es là et je t'aime. Jésus, tu es là dans mon cœur et je t'aime. » C'est une habitude que l'on faisait prendre beaucoup plus aux enfants à une autre époque. Vous voyez, encore une fois, je ne suis pas du tout contre le fait de prier en église, mais il ne faut pas que ça supprime notre dialogue personnel. À la grotte de Lourdes, Jésus fait comprendre à Gabriel « Ne pourrais-tu pas faire au milieu du jour un petit examen de conscience qui te rattacherait directement à moi ? Si souvent je t'appelle, appelle-moi pour que tu viennes. Je suis toujours là au rendez-vous. » Et Jésus se plaint d'être seul, voyez. Jésus se plaint d'être le grand solitaire. Il est là dans le cœur, au cœur de notre vie, et nous restons des heures, parfois des journées ou des semaines, sans lui dire bonjour. Et c'est ça la dévotion au Sacré-Cœur. Jésus, il réclame qu'on l'aime. Il faut être en voyage de noces avec lui, tout faire à deux. Tu n'es pas seul. Un jour, Gabriel se plaignait qu'elle portait toujours de grosses valises pour transporter les décors et les costumes de ces comédies. Elle se plaignait, mes paquets. Jésus la reprend gentiment, nos paquets. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Jésus n'emploie qu'une seule fois le mot oraison dans ses dialogues avec lui, avec elle. Une seule fois. Pour parler de cette oraison que nous faisons en pleine vie. Ne crois pas perdre ton temps en t'arrêtant pour m'aimer, me contempler, m'adorer et me dire « toi ». Cela s'appelle faire oraison. Et cela dépasse en excellence toute autre occupation. Et c'est le fameux passage de l'Évangile où on voit Jésus être tout heureux que Marie de Béthanie reste à ses pieds à causer avec lui. Tandis que Marthe s'agite beaucoup, se démène à la cuisine. Jésus est très content que Marthe lui rende service, mais il y a une autre façon d'aimer Jésus, c'est de causer vraiment avec lui. Par exemple, Jésus dit un jour à Gabriel Bossis, « Ah, tu viens de jardiner. Ah, je te félicite pour ton travail de jardinage. Tu peux d'ailleurs m'en parler dans tes oraisons. Mais si tu avais pensé un petit peu plus à moi dans ton jardinage, ça m'aurait fait davantage de plaisir. De même, quand tu prépares un beau bouquet de fleurs pour mettre devant le tabernacle, c'est bien, mais j'aimerais bien que le bouquet de fleurs soit un petit peu moins beau, mais que tu m'aies davantage dit bonjour et je t'aime. Et Jésus réclame qu'on lui dise je t'aime. Voilà, ça c'est ça la dévotion au Sacré-Cœur. Ce n'est pas. Alors, certains diront c'est sentimental, mais oui, mais Jésus est un sentimental, c'est un amoureux, il désire être aimé. Dans un voyage de noces, on passe son temps à se dire des choses agréables. Et Jésus dit à Gabriel, je te dis, ma Gabriel, tu ne pourrais pas me dire mon Jésus. Ah, mes frères, c'est quelque chose à retrouver dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas de la piété subjective. Enfin, je sais bien qu'il y en a qui vont être étonnés par ce que je dis là. On leur a tellement expliqué qu'ils devaient prier en église qu'on a fini par oublier qu'ils devaient aussi prier seul à seul, le cœur à cœur avec Jésus. La dévotion au Sacré-Cœur, c'est d'abord nous rappeler que nous avons un cœur à cœur à cultiver avec Jésus. Ne crois pas perdre ton temps en t'arrêtant pour m'aimer. Jésus réclame d'être aimé. Alors dans l'Évangile, on le voit bien à certains épisodes. Qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine au bord du puits? Donne-moi à boire. Et sur la croix, j'ai soif. Mère Teresa de Calcutta dira à ses sœurs dans son testament que ce sont ces mots-là qui ont motivé sa vie. La grande surprise pour un chrétien, ce n'est pas seulement que Dieu l'aime, c'est que Dieu réclame notre amour. Notre vie sera transformée, mes frères, quand vous aurez compris que vous pouvez, à longueur de vie, donner du plaisir à Dieu. Et une journée bien réussie, c'est une journée où, au cœur de vos activités, vous lui direz souvent, je t'aime. D'ailleurs, la première fois que Jésus est apparu, il n'est pas apparu, Gabriel n'a jamais eu d'apparition de Jésus. La première fois que Jésus lui a parlé sur le paquebot qui l'a mené au Canada, il lui a dit plusieurs fois, dis-moi, je t'aime. Mais je te l'ai déjà dit, oh. Sous-entendu, quand on est amoureux, on aime bien se l'entendre dire plusieurs fois. Jésus est tellement, c'est le plus grand amoureux du monde, mes chers amis. Et comme tous les amoureux, ils désirent aimer, mais ils désirent donner, mais ils désirent recevoir vos baisers d'amour. Voilà. Imaginez un mari qui soi-disant aimerait sa femme d'une façon désintéressée, sans désirer recevoir ses baisers et ses je t'aime, ben, ce ne serait pas un mari amoureux. Non. Dieu sait cela. Dieu se révèle dans la Bible comme un amoureux. Déjà dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme un amoureux. Puisque dans le Cantique des Cantiques, un livre de l'Ancien Testament, Jésus dit à sa belle, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante en visage. Est-ce que vous pensez que Dieu vous admire? Les enfants comprennent ça très bien. Vous connaissez cette histoire de la petite Juliette, 6-7 ans, qui reste dehors alors qu'il pleut, mais il fait un orage, il y a des éclairs. Et sa mère, rentre, Juliette, tu vas te faire mouiller, tu vois pas ce que tu fais mouiller. Et la petite Juliette qui répond, non, maman, je reste dehors parce que le bon Dieu n'en finit pas de me prendre en photo. Les éclairs, pour cet enfant, c'était les flashs de la photo que Jésus faisait d'elle. Voilà, un enfant comprend que elle peut être. Un enfant comprend qu'il peut être admiré par Dieu. Dieu ne se contente pas de nous pardonner, nous verrons cela, Dieu est miséricordieux. Le cœur de Jésus est miséricordieux, nous ferons dans une autre conférence, mais c'est un cœur qui est capable de nous admirer, comme un mari admire son épouse ou sa fiancée. Et dans le métro, je suis content quand justement il y a quelqu'un qui pense à moi dans le métro. Tu es là au milieu d'une foule. Personne ne pense à moi. Ça me console de penser qu'il y a quelqu'un qui me parle. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on se remet à chanter des chants où on tutoie le Seigneur, où on lui parle personnellement. Je pense à ce chant de Jean-Claude Janada. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des projets faux ou dangereux, le cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Que je l'aime, ce dernier couplet. C'est ça le ciel. Sur terre, je me contente de savoir que Jésus me regarde. Là, ce regard, je le verrai. Je sais que je suis dans les bras de Jésus. Là, je sentirai que je suis vraiment dans ses bras. Le ciel, c'est la même chose, avec la différence que Jésus, on le voit, et que Jésus, on le sent. Donc, Jésus ne cesse de former Gabriel pour qu'elle ne se laisse pas distraire. Elle regarde trop des choses qui ne sont pas indispensables. Il faut s'en va fermer les yeux, mes frères. Il faut ouvrir nos yeux sur le monde. Il faut contempler la beauté du monde. Et regarder, savoir regarder la détresse de nos frères. Mais il faut aussi causer intimement avec Jésus. Faire des exercices de piété. Quand je te demande de répéter souvent, je sais que tu es là, je t'aime, c'est un exercice de piété. Tu sais, on fait l'exercice aux soldats, jusqu'à ce qu'ils savent leur mouvement naturellement. C'est dans la vie, c'est la même chose dans la vie de l'esprit. À force de répéter, on arrive à l'élan. C'est tout simple. Il faut l'exercice. Et ne me prive pas de ta manière d'aimer. Hein? Oh, cette parole magnifique de Jésus à Gabriel. Un jour, elle pensait, qu'est-ce que je fais sur la terre? Réponse pleine d'amour de Jésus. Oh, Gabriel, qui m'appellerait mon Jésus chéri si tu n'étais pas là? Voilà. Tu as une façon de dire, mon Jésus qui est unique au monde. Vous donnez à Jésus un plaisir unique au monde. Alors, c'est là un grand mystère. Dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, Dieu souffre-t-il? Je conteste l'opinion de certains théologiens qui pensaient que Jésus sur terre avait renoncé à son bonheur par amour. Que Dieu pouvait renoncer à son bonheur divin par amour. Non, 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 non. Dieu est infiniment heureux. Cette idée qui enthousiasmait le cœur, le père de Foucault. Mais le mystère que nous sommes en train de méditer cette année, c'est que ce Dieu infiniment heureux, il a une espèce de plaisir supplémentaire ou de peine lorsque nous oublions de l'aimer. On peut donner du plaisir à Dieu. Ça fait partie des mystères. Un mystère, c'est toujours une vérité, deux vérités apparemment contradictoires. Dieu est infiniment heureux et pourtant, on peut lui donner du plaisir. Alors, c'est quelque chose que, quand j'étais professeur de philosophie, je n'ai jamais enseigné en philosophie. Non, non. C'est une vérité biblique, un mystère énorme. Je ne cesse de vous répéter que les mystères, ce sont les plus belles choses de la révélation. La bonne nouvelle est une série de mystères. Que Dieu nous aime jusqu'à ce point-là, c'est extraordinairement mystérieux. Mais ce sont des trésors, les mystères. Voilà. Je suis très sensible à la façon dont tu me parles, Gabriel. Imagine comment, en moi-même, je prononce ton nom. Et essaye la même chose. Dis-moi des mots gentils. Et Dieu qui réclame qu'on lui fasse des petites... des privautés, quoi. Alors, j'ai un plaisir particulier avec toi que je n'ai pas avec les autres. Et je suis très sensible aux petites choses. Parce que, même si c'est toujours la même chose que tu fais, la façon dont tu le fais aujourd'hui me plaît énormément. La vie ne se compose que de toutes petites choses. Vous connaissez peut-être cette magnifique réflexion que fait Pascal dans le texte qu'on appelle le mystère de Jésus. Fais les petites choses comme grandes à cause de la majesté de Jésus qui les fait en toi et qui vit ta vie. Et les grandes comme petites et aisées à cause de sa toute-puissance. Quand tu te plains que tu fais toujours la même chose, oh non, 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 parce que la façon dont tu le fais aujourd'hui me fait un plaisir particulier que ne me faisait pas ce que tu faisais hier. Et quand tu fais quelque chose de difficile, ne te plains pas parce que je le fais en toi. Voilà. Quand on a compris ça, la vie change totalement, mes frères. On finit par danser sa vie. Hein? Vous savez que Jésus, la première chose que Jésus a faite en arrivant sur terre, le premier miracle qu'il a fait, c'est de faire danser le petit Jean-Baptiste dans le sein de sa maman Élisabeth. Et la première chose qu'il a faite en commençant son ministère, c'est de transformer de l'eau en vin aux noces de Cana pour que tout le monde puisse chanter et danser. Jésus veut nous faire danser sa vie. Et c'est un thème très important dans la Bible. Et c'est pourquoi j'ai composé sur un air du renouveau une petite chanson. J'ai mis des paroles nouvelles sur un air du renouveau pour me rappeler à moi-même que Jésus, il est content de me voir danser ma vie et qu'il danse lui-même, c'est lui qui me fait danser au cœur de moi-même. Il danse toujours en toi avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Le Seigneur est en moi nuit et jour, il me donne sa joie, son amour. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je peux m'abandonner dans ses bras, et toujours chantonner Jésus ma joie. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et si je sens monter la tristesse, je m'oblige à me rappeler sa tendresse. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et alors au moment de la difficulté, mes frères, après avoir appelé Dieu au secours, eh bien, on se rappelle que on peut lui donner du plaisir en continuant à croire qu'il nous aime et en redisant avec le psaume « Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère et tu sais ma détresse. » Et n'oublions pas que nous avons le droit et même le devoir de nous précipiter dans les bras de Jésus au moment de la difficulté. On a besoin d'un refuge. Les psaumes parlent d'un bouclier, d'un roc, d'une forteresse, d'un rempart. On a besoin de se précipiter dans les bras de Jésus au moment de la difficulté. Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous procurerai le repos. J'aime beaucoup la dernière parole que Jésus dit à ses apôtres le jeudi saint, la dernière parole du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean. Jésus prévient ses apôtres, « Je m'en vais, mes amis. » Il les appelle mes amis, voyez, amitié, amour. Vous aurez des difficultés dans la vie, mais en moi, vous aurez la paix. J'ai compris ça il y a bien longtemps. en moi vous aurez la paix. » Saint Paul nous dit 159 fois que nous sommes dans le Christ de Jésus. Ça veut dire dans les mains de Jésus, dans les bras de Jésus. Vous avez revêtu le Christ par votre baptême. Vous êtes comme entouré d'un manteau qui vous protège, qui vous console. On a besoin d'être consolé par Jésus. Le chrétien, il est consolé au sens fort du terme. Consolé, c'est être avec quelqu'un qui est seul. Parce qu'autant la solitude est bonne, autant c'est malsain de se sentir esselé d'être... On n'est pas tout seul dans le monde. Il y a Jésus qui est là. On est en voyage de noces avec lui. Vous voyez, quand on vit habituellement ce voyage de noces avec Jésus, au moment de la difficulté, on se laisse consoler par Jésus. Et en se laissant consoler par Jésus, on lui fait plaisir. Mais mon enfant, je ne te demande que cela. Tu me fais plaisir en recourant à moi dans ta difficulté, en criant vers moi. Même chose pour la Sainte Vierge. Vous connaissez ce cri de Saint Bernard, qui est devenu une chanson que vous connaissez bien. « Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. » Et Jésus ne cesse de dire à Gabriel, « Repose-toi sur mon cœur et dans mes bras. » Est-ce que vous savez que la première fois que Jésus est apparu à Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, c'était une fête de Saint Jean l'Évangéliste, le 27 décembre. Et Marguerite Marie a été invitée à reposer sur le cœur de Jésus dans ses bras, comme Saint Jean l'avait fait le soir de la scène. Et Jésus y revient sans cesse. Abandonne ta faiblesse sur mon cœur, à la place qu'occupait l'apôtre Jean le soir du jeudi saint. Si tu es lasse, repose-toi, mais prends ce repos sur mon cœur. En aucun autre lieu, tu ne trouveras la même direction. Un jour que le Saint-Sacrement était exposé, Jésus lui dit, de l'ostensoir, « Repose-toi sur mon cœur, bois et mange, reste là quand tu t'éveilles, que ce soit toujours sur mon cœur. » Cette nuit, le sommeil ne venait pas. Tu as posé ta tête sur mon cœur et tout de suite, tu t'es endormi jusqu'au matin. Quand tu n'as rien à me dire, dis-moi que tu n'as rien à me dire et appuie-toi sur mon cœur. Ne t'étonne pas d'être aussi fragile, mais place ta fragilité dans mes mains très fortes. C'est cela la vie chrétienne, c'est cela l'esprit d'enfance. L'enfant, c'est celui qui a besoin d'être porté dans les mains de son bon pasteur. On n'est pas seul. Et alors, Jésus fait comprendre à Gabriel qu'elle devrait davantage être sa consolatrice. Voilà. Ce que j'ai demandé à Gabriel, à Marguerite Marie, tâche de le vivre toi-même, que ce soit ton charisme, de me consoler. Et Jésus réclame d'être consolé. Jésus est triste de voir que les gens, les chrétiens les plus fervents qui vont à la messe tous les jours, oublient de le consoler en lui rendant souvent visite, en pensant à sa croix. J'ai souffert pour toi, est-ce que tu me dis merci ? Vous recevez le corps crucifié de Jésus et ressuscité, est-ce que vous pensez, lorsque vous communiez, à dire que c'est pour moi que tu as souffert tout cela, Jésus ? Honore ma couronne d'épines. Ce fut si horrible pour ma tête, si doux pour mon amour. Désormais, tu feras l'heure sainte du jeudi. Jésus demande à Gabriel Bossis, deux ans après avoir commencé ses dialogues avec elle, tous les jeudis, tu feras une heure sainte en pensant à ce que j'ai souffert pour toi au moment de mon agonie. Tu feras l'heure sainte du jeudi. Je la demande cette heure avec moi. Au début, il faut tenir fort, et puis ensuite, cela ne coûte pas. Rappelle-toi des premiers couchés sur le plancher, et maintenant, Et puis tes premiers chemins de croix, parce qu'elle avait pris l'habitude de faire tous les matins, avant la messe, un chemin de croix. « Oh, ma fille chérie, ne me quitte pas, ne me quitte jamais. Et fais-moi l'honneur d'attendre le jeudi comme une fête. » À l'époque, le jeudi après-midi, c'était le jour de congé pour les enfants. Eh bien, moi, j'attends ce jour-là comme un enfant. Et Jésus, il guette notre venue. Un jour, elle était sur un quai de gare et elle regardait le train si le train allait arriver. Je suis comme sur un quai de gare. Quand est-ce qu'elle va venir vers moi? Voilà. Nous sommes faits pour donner du plaisir à Jésus. Et un jour, c'était en 1943, Jésus dit à ce dialogue avec sa chère Gabrielle, que tout soit charmant dans ta voix, tes paroles, puisque c'est pour moi que tu vis. Je voudrais en être sûr, Seigneur. Oui, redis-le-moi souvent, afin que même devant toi, il n'y ait nul équivoque et cela me fera plaisir. Moi seul demeure. Moi seul, et Jésus réclame, il est Dieu. Il réclame d'être aimé plus. Vous savez, Jésus l'a dit à ses apôtres. Vous devez m'aimer plus que vous aimez votre conjoint, vos enfants, vos parents. Ah, si Jésus n'était pas Dieu, ce serait un gourou. Non, il sait que nous sommes faits pour aimer Dieu de tout notre cœur. Et Dieu s'est fait visible. Donc nous avons le droit d'adorer cet homme qui est Dieu. C'est cela la dévotion au Sacré-Cœur. Cet homme qui a un cœur, j'ai le droit et le devoir de l'aimer de tout mon cœur parce qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Ne suis-je pas le Fils de l'homme? J'ai besoin de la tendresse de mes frères. Oh, mes frères, Dieu qui a besoin de la tendresse de ses frères. Ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'il se suffit à lui-même. Rien de lui manque, il est Dieu. Mais mystérieusement, il confesse, j'ai besoin de la tendresse de mes frères. Je suis allé quêter celle de Pierre, Jacques et Jean pendant mon agonie, et ils ne m'ont pas donné ce que j'attendais d'eux. Donnez-moi ce que mes chers apôtres ne m'ont pas donné. Combien je donne aux âmes qui, sous l'impulsion de ma grâce, me disent leur amour, mais combien je donne davantage à celles qui me viennent sans attendre mon invitation et qui ne seraient vives sans ma tendre compagnie. Sois de celle-là, ma fille. Place-moi comme en avant de ton visage et tu feras tous et tout à travers moi. Alors ce sera la fête de mon cœur puisque le tien ne quittera plus le mien. Selon le mot d'ordre de cette année 1943, dans nos cœurs, moi chez toi, toi chez moi. Voilà. Autrement dit, Jésus nous invite à danser avec lui. Nous sommes faits pour danser perpétuellement avec lui. Et à lui dire, Jésus, je t'aime. C'est la fameuse prière que Saint Ignace de Loyola a imaginée à la fin de ses exercices spirituels. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. C'est ce que chantent les scouts le jour de leur promesse. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Oui, mes frères, consolons le cœur de Jésus en lui disant souvent « Jésus, je voudrais t'aimer de plus en plus de tout mon cœur pour te faire plaisir. »